Vous écoutez, on lit pour vous.
Plutôt rire que pleurer, avec géolocaliser l'amour, lecture destinée de et avec Simon Boulris. Une entrevue réalisée par Philippe Granger parue le 10 juillet 2023 dans le magazine Fugue. Si Simon Boulris se présente comme une personne insouciante et sans ambition, sa feuille de route semble illustrer tout le contraire. Après avoir adapté son autofiction « Géolocaliser l'amour » en série web, l'auteur prépare désormais une performance illustrée de son œuvre qui suit, par coup de poème narratif, les aventures plus ou, surtout, moins fructueuses d'un Simon qui explore les applications de rencontre. D'un livre à une série télé, « Géolocaliser l'amour » est maintenant en format scénique. Comment en es-tu arrivé là? J'aime toujours dire que je ne suis pas un puriste dans la vie et que je pense qu'une histoire peut naître dans différents écrins. Je suis vraiment de type vase communicant. J'aime toujours naviguer entre le théâtre, le roman, la série télé. Et ce projet-là, je pense qu'il représente bien ma diversité et mon anti-purisme. Juste avant la série web, un peu avant la pandémie, on m'a proposé de faire une lecture de ce texte-là dans le cadre de Québec en toutes lettres. C'est un festival littéraire où on essaie de faire des espèces de happening d'événements autour de la littérature, de la rendre très vivante. Élodie Quéneau faisait la mise en lecture de ce texte-là. Moi, je jouais dans une église. J'aimais ça, être dans un lieu sacré avec un texte profane. Il y avait aussi Richard Valerand qui dessinait en temps réel et millimétrique, un DJ de Québec. La réaction a été fabuleuse. Il y a quelque chose qui s'est passé ce soir-là. L'été passé, on l'a repris dans un festival à l'Assomption. Ça a vraiment marché. Ce soir-là, je me sentais comme une rockstar. Ça riait beaucoup et il se trouve que Juste pour rire était dans la salle. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a tant d'ambition. Je sens que les choses m'arrivent et j'aime ça dire oui à des affaires stimulantes. Je pense que quiconque est passé par les applications de rencontre se reconnaît là-dedans, dans l'espèce de buffet à volonté qui nous est proposé, le vertige que ça représente. Mais c'est un spectacle qui m'emballe parce que je pense que ça peut faire du bien de rire collectivement de tout ça, même si on n'est pas queer. Ça demeure quand même universel, le désir d'être aimé et le sentiment d'être incomplet. Même si on est hétéro et même si on n'a pas l'âge d'avoir une application de rencontre, on peut quand même s'y reconnaître. Donc je pense que ce spectacle peut être rassembleur. Tu présentes ton spectacle au festival Juste pour rire, mais tu y partages également des moments d'échec et de vulnérabilité. Considères-tu géolocaliser l'amour comme étant un projet plutôt triste ou plutôt drôle? Je trouve qu'il me représente beaucoup, ce livre-là, et pas juste parce que j'y prête mon nom. Dans ce cas, c'est beaucoup à cause du ton. C'est de l'autofiction, mais il y a beaucoup d'inventions. Il y a beaucoup de choses que j'ai empruntées. Comme c'est dit dans le livre, tout n'est pas vrai, mais tout pourrait être vrai. Tout est sincère. Par contre, le ton est très près de ce que je suis, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'humour et beaucoup de tristesse. Je vais généreusement autant dans l'humour que dans le drame. J'ai eu un professeur à un moment donné au cégep qui disait, et je lui donne raison, que le plus grand titre de tous les temps, c'est « La détresse et l'enchantement » de Gabriel Roy. Il nous disait « Une vie, c'est constitué de sang, c'est constitué de détresse et d'enchantement, et parfois dans la même minute. Je me suis toujours rattaché à ça. » Ça ouvre la porte à beaucoup de vulnérabilités, et moi, je n'ai jamais de problème à montrer mes vulnérabilités. Je trouve que souvent c'est payant. Ça m'a souvent servi. C'est aussi ce que j'aime en tant que public. J'aime quelqu'un qui s'ouvre sur ses imperfections. J'ai toujours trouvé que quand il y a trop de vernis, ça ne me touche pas. Je reconnais le talent, mais il n'y a pas d'aspérité et j'aime les aspérités. Par tes nombreux projets, tu trouves un public auprès de nombreuses générations. Vois-tu une pression ou une difficulté à gérer ces différentes générations? Ça me rend heureux. Il n'y a pas grand-chose de calculé dans ce que je fais. Je n'ai pas tant d'ambition. Je ne suis pas quelqu'un qui réfléchit autant que je devrais peut-être. Il y a une forme d'insouciance chez moi. Je ne suis pas préoccupé par ça. J'aime essayer plein de choses. Je me dis juste « qui m'aime me suive ». Mais évidemment, plus tu rejoins le monde et plus tu prêtes le flanc, plus tu reçois des commentaires plus désobligeants parfois. Le gars de l'émission cette année-là, c'est moi et ça me représente bien. Mais le gars de géolocaliser l'amour aussi, c'est une autre partie de moi. Et vous avez le droit de pas tout aimer de moi. Je n'aime pas tout de moi non plus. Ma multisimplicité, je la montre facilement et je suis à l'aise avec ça. Cette insouciance, je trouve que ça me sert. Comptes-tu aller en tournée avec ce spectacle? Pour vrai, je suis vraiment ouvert à tout. J'aime ça surfer sur des vagues. C'est un spectacle que, chaque fois que je l'ai présenté, j'ai trouvé ça le fun, j'ai eu du plaisir. Je viens du théâtre. J'aime le côté vivant, le côté mouvant. Et je me dis que c'est super léger comme spectacle, on est trois, et on peut le faire partout. On a juste besoin d'un grand écran et d'une console sur le côté. On est comme une trinité, une table avec le dessinateur, une table avec le DJ et moi en plein milieu avec mon tabouret et mon cartable. Je n'ai pas le souhait actif que ça se prolonge, mais j'ai le souhait que ce soit un début parce qu'on est emballé par le spectacle. Donc s'il y a des échos favorables, on va aller de l'avant et je serai bien content. Mais sinon, ce sera ça et je pourrais me dire « j'ai fait la place des arts avec un petit roman d'autofiction un peu grivois, un peu salace ». Quel conseil aimerais-tu donner à quiconque voudrait s'aventurer sur Grindr? Je ne donne pas beaucoup de conseils dans la vie en général, je suis plus du genre « essai ». Je me suis forgé une carapace petit à petit, je ne veux pas démoniser ces affaires-là. Il ne faut pas prendre ces choses-là au sérieux. Si tu ne prends pas trop ça au sérieux, tu ne seras pas trop bouleversé quand on va te ghoster. Parce que c'est ça, la réalité. On ne cherche pas tous les mêmes affaires. Il y en a qui sont très rapides. Il faut en rire. Il faut tourner ça un peu au ridicule. Je sais que ça fait de la peine, parce que c'est des rencontres qui sont avortées. Si tu fais ça tout seul, ça peut être triste. Mais si tu vis quelque chose de blessant, décante, ventile avec un ami. Je pense qu'il faut avoir du lâcher-prise. Il ne faut pas y mettre trop son cœur, pas livrer tout son cœur rapidement, parce que ça reste du virtuel et c'est facile d'usurper des identités, d'être blessant, etc. Le voilà, mon conseil, se protéger un petit peu en tournant ça parfois au ridicule. Mais, soit dit en passant, j'y crois qu'on puisse trouver l'amour là-dessus. C'était « Plutôt rire que pleurer » avec Géolocaliser l'amour, lecture dessinée de et avec Simon Boulris, une entrevue réalisée par Philippe Granger, parue le 10 juillet 2023 dans le magazine Fugue.
Le coming out est un cadeau. Un texte de Luc Boulanger paru le 16 juillet 2023 dans la presse. Michael Hendricks et René Leboeuf célébreront leur 20e anniversaire de mariage au printemps 2024, ainsi que les 50 ans de leur rencontre le 31 décembre 2023. Véritables pionniers de la lutte pour la reconnaissance des personnes LGBTQ+, au pays, les deux hommes sont encore passionnés par les droits des minorités, et toujours aussi amoureux l'un de l'autre. Ils arrivent à l'heure pile au rendez-vous, d'un pas alerte, bien que le plus vieux du couple, Michael Hendricks, se déplace à l'aide d'une canne. Sauf pour les cheveux gris et blancs, ils n'ont pas tant changé, ils sont aussi heureux et fiers qu'à l'époque où ils faisaient la une des journaux. Au temps du long combat de leur mariage, très médiatisé. « On s'est battu seul pour notre mariage », au début, la communauté homosexuelle a refusé de nous soutenir. Les gays et les lesbiennes trouvaient qu'on allait trop loin, qu'il fallait mieux rester dans l'ombre et ne pas trop s'afficher par crainte d'un backlash des hétéros, se souvient René Leboeuf. Or, le 1er avril 2004, les deux hommes se sont mariés sans incident et la vie a continué. Pourquoi cette date? Parce que les autres étaient réservés, répond Michael Hendricks, à l'exception de cette journée. Comme ça faisait 7 ans qu'on attendait, on avait hâte d'aller au palais de justice, peu importe le poisson d'avril. Des relations avec la police à la violence conjugale, en passant par l'inauguration du Parc de l'Espoir, de la lutte contre le sida à l'homophobie, en passant par les meurtres anti-gays, le couple a milité sur plusieurs fronts depuis 40 ans. Quelle est la victoire la plus importante à ses yeux? La reconnaissance de nos droits par l'État, répond M. Leboeuf. Socialement, la discrimination ouverte contre les lesbiennes et les gays est illégale. Si elle existe encore, elle demeure plutôt rare ou au moins discrète. Nous sommes reconnus au Québec comme des citoyens à part entière, au même titre que les citoyens hétérosexuels. Pour M. Hendricks, le plus gros cadeau de la communauté, c'est le coming out. Pouvoir sortir de la clandestinité, du placard, et ce, dès la puberté, c'est formidable. Bien sûr, tu n'es pas obligé de le faire, mais tu as le choix. Cela n'a pas toujours été le cas. Dans les années 1980, des amoureux étaient éconduits par les familles de malades du VIH. Je me souviens de parents empêchant un chum de voir son conjoint mourant à l'hôpital ou de se rendre aux funérailles, de familles vidant l'appartement d'un mort en emportant tous les meubles sauf le matelas parce qu'ils disaient que le lit était souillé par le sexe. Il y avait des injustices au quotidien, dit Michael Hendricks. Deux pionniers. Avant l'arrivée de l'épidémie du VIH en 1985, il n'y a pas eu de vrai militantisme LGBTQ+, selon eux. C'était plutôt du lobbying. Le vrai militantisme est arrivé avec ACT UP, durant la conférence sur le sida à Montréal en 1989, une conférence qui a changé le cours de l'histoire du sida, rappelle M. Leboeuf. Parallèlement au ravage du virus, une série de meurtres d'homosexuels sévissait alors dans le village et la communauté avait de sérieux problèmes avec le service de police. Le projet « Dire enfin la violence », mené par Claudine Metcalfe, a été lancé en même temps que la table de concertation gay et lesbienne à laquelle participait le chef de la police de Montréal, Jacques Duchesneau. Il était plus ouvert que ses prédécesseurs et les choses ont commencé à changer dans nos relations avec la police, explique M. Hendricks. Le couple ne comprend pas la décision de Fierté Montréal d'interdire la participation des policiers en uniforme au défilé. Ils ont les mêmes droits que le reste de la population, dit M. Hendricks. Dans les années 1990, la police a admis ses erreurs, la discrimination et l'intimidation envers la communauté. Duchesneau nous a aidés à régler la question des homicides également. On a tous besoin de la protection policière, mais on n'a pas besoin de discrimination. C'est vrai qu'il y a encore de la brutalité et de la violence envers certaines communautés, ajoute son conjoint. Mais c'est un problème social avant d'être un problème policier. C'est correct de descendre dans la rue pour exprimer sa colère et dénoncer l'injustice. Mais si tu fais juste protester, tu ne règles pas les problèmes. Il faut aussi être capable de tendre la main et ouvrir le dialogue. En attendant un leader. En 2023, le couple croit que l'intolérance se déverse désormais sur les personnes transgenres et les drag queens. La question des drags dans les bibliothèques est une distraction pour éviter de parler de sujets urgents. La droite pense que ces minorités sont une cible facile pour exprimer leur haine de la différence. Je ne pense pas que la droite accepte l'homosexualité de nos jours. Nos ennemis sont pognés avec nous. Ils nous tolèrent, nous dit Michael Hendricks. Le sexagénaire et le jeune octogénaire trouvent parfois complexes les luttes militantes actuelles, comme les débats sur les pronoms, l'intersexualité et la fluidité des genres. Mais ils s'informent en essayant d'évoluer avec ceux et celles qui continuent le combat. Toutefois, avec un spectre de couleurs de plus en plus large, les communautés ont tendance à s'isoler entre elles selon eux. René Leboeuf estime qu'il manque aujourd'hui un vrai leader capable de rassembler la communauté au complet, comme le faisait Laurent McCutcheon, mort en 2019. C'est dommage, déplorent les deux anciens militants. Qui sont-ils? Michael Hendricks, 81 ans. Né à Trenton, au New Jersey, il a travaillé en cinéma et en informatique. Il a fui les États-Unis en 1968 pour échapper à la conscription et militer contre la guerre du Vietnam. René Leboeuf, 67 ans, né à Québec, il est photographe et a travaillé longtemps en hôtellerie. Ils se sont rencontrés le 31 décembre 1973 dans une fête du Nouvel An. Ardent défenseur de la communauté LGBTQ+, au Québec. Ils ont, entre autres, milité au sein d'ACT UP Montréal, cofondé le Parc de l'Espoir, le Comité Dire enfin la violence et la table de concertation gay et lesbienne 1992. Le 1er avril 2004, au Palais de justice de Montréal, Michael Hendricks et René Leboeuf deviennent le premier couple de même sexe à se marier civilement au Québec. C'était « Le coming out est un cadeau », un texte de Luc Boulanger paru le 16 juillet 2023 dans la presse.
Voyager à Tofino pour se mettre à l'abri du monde. Un texte de Samuel Larochelle paru le 26 juin 2023 dans le magazine Fugue. Il y a quelque chose de magique à Tofino. Un sentiment dépassant la magnificence des paysages, l'extrême gentillesse des gens et la proverbiale vibe de la côte ouest. Une énergie qui vous enveloppe tel un câlin. L'impression que peu importe la puissance du soleil ou l'intensité de la pluie, vous allez soudainement mieux. Comme si cette parcelle du territoire britanno-colombien avait le pouvoir d'apaiser tous les maux pendant que le reste du monde s'écroule. À Tofino, tout est équilibre. Considéré comme l'un des endroits les plus frais en été et les plus chauds en hiver, à travers le Canada, le secteur attire quantité de personnes fortunées et d'autres qui voyagent avec leur sac à dos. Là-bas, le luxe côtoie la simplicité et le laisser aller. Nous avons eu la chance de séjourner à l'hôtel Z-Z-E-D, l'un des établissements hôteliers les plus instagrammables au pays, voire de la planète, avec sa décoration en hommage aux années 1970. À la seconde où vous arriverez dans le stationnement, vous serez catapulté dans un monde de nostalgie. Si la devanture aux rayures multicolores ne suffit pas pour vous dessiner un sourire, vous serez probablement conquise par le lounge rétro avec son tapis vert, son macramé sur les murs, ses œuvres d'art vintage et ses meubles quinquagénaires choisis par la propriétaire dans une quête menée à travers le Canada. Il s'agit de l'endroit rêvé pour un cocktail d'après-surf, comme le désignent les adeptes des vagues de la West Coast. Pas encore convaincu? Alors, continuez votre découverte en prenant place dans un bureau aux allures de la série « Mad Men » et cherchez le livre dans la bibliothèque qu'il faut actionner pour qu'une pièce secrète se révèle. Vous apercevrez alors de vieilles machines d'arcade toujours fonctionnelles. On se croirait dans un film. Comme si cela n'était pas suffisant, vous pourrez aussi profiter d'une pièce désignée pour une liseuse de tarot qui a ébranlé chaque participant-participante à qui nous avons parlé, une autre pour danser le disco sur un plancher multimédia et sous les légendaires boules argentées, sans oublier une salle à manger privée dont la véritable utilité pourrait vous faire gagner bien des sous. Rebellez-vous contre l'ordinaire. Ayant comme slogan « Rebels against the ordinary », l'hôtel Z dépasse les attentes sur tous les plans. On y trouve une terrasse chauffée et animée par un ou une DJ les week-ends, un coin près du feu, des jeux extérieurs, des hamacs en nature, un sanctuaire d'oiseaux, un sentier menant vers un lac décoré de montagnes, une forêt pleine de champignons et de petits fruits, un bain tourbillon et un sauna, ouvert de 9h à 23h, ainsi qu'une tente à massage en pleine nature. Ainsi, aux 10-20 traitements reçus, se sont ajoutés des bruits d'oiseaux qui chantent. Signe, selon la massothérapeute, qu'ils se sentent en sécurité, tout comme nous. Contrairement à plusieurs établissements qui se prétendent « queer-friendly », pour bien paraître et vider les poches des touristes LGBTQ+, Hôtel Z passe de la parole aux actes. En plus d'afficher les couleurs des communautés queers à d'innombrables endroits, l'établissement emploie plusieurs personnes queers, offre des salles de bain non genrées, verse 1$ par Pride Cocktail, commandé à une organisation LGBTQ+, et encourage chaque membre de son équipe à exprimer son individualité sans craindre que cela diminue leur rendement. À titre d'exemple, lors de notre premier repas au Roar, le restaurant de l'hôtel au look hippie chic, notre serveur au bronzage de surfer a cité, avec le plus grand sérieux, les paroles de la chanson Roar de Katy Perry avant de nous traiter aux petits oignons toute la soirée. Le coup de foudre s'est avéré particulièrement puissant. Nous avons passé des heures à déguster chaque plat, faisant honneur aux spécialités locales. Pensez, fruits de mer et légumes cultivés sur l'île de Vancouver. Évidemment, qui dit « île » dit « étendue d'eau qui l'entoure », soit l'océan Pacifique dans le cas qui nous occupe. Même si l'idée de rester à l'Hôtel Z pendant des jours est tentante, l'extrême beauté des lieux environnants prend le dessus. En seulement 10 minutes de marche, vous accéderez à la sublime plage Chesterman, où vous pourrez déambuler, vous baigner ou admirer d'inoubliables couchers du soleil. Si vous êtes un peu plus aventurier, aventurière, cognez à la porte de Swell Tofino, adjacent à l'Hôtel Z, pour louer un vélo, un wetsuit, une planche à pagaies ou une planche de surf. Vous pouvez aussi faire appel à une équipe de pros qui vous guidera sur les eaux salées, fraîches, mais non glaciales, avec une capacité inouïe pour vous guider, vous encourager et rester positif ou positive, même si vous tombez 7 fois en 30 minutes. Par ailleurs, une 15aine de minutes à vélo ou 5 en voiture, sur une piste cyclable sécuritaire, vous donnera accès au centre de Tofino. Pour le lunch, faites un arrêt chez Shed, S-H-E-D, pour de délicieux bols et burgers. Pour souper, vous devez absolument découvrir Jeju, J-E-J-U, un resto coréen dont nos papilles ne se sont pas encore remises tant elles ont été ravies. Question de sortir des sentiers battus, pourquoi ne pas prévoir une dégustation d'alcool à la Tofino Distillery? Au menu, gin, absinthe, vodka et limoncello aux saveurs locales. Votre dent sucrée sera également servie par les créations raffinées de Chocolate Tofino, une chocolaterie dont les propriétaires sont aussi sympathiques que leurs sucreries sont succulentes. Si vous désirez retourner à nouveau sur la plage, on vous comprendrait sans problème, offrez-vous une expérience inoubliable avec Lux Tofino, quand vous arriverez devant les installations prévues pour vous sur le sable et que vous dégusterez leurs spécialités fraîchement préparées pour vous, il se peut que vous vous sentiez comme des membres de la royauté. Difficile, voire impossible, de trouver un défaut à notre voyage. Si certaines personnes affirment que Tofino est trop loin, notre avis est que ce sentiment de réclusion fait partie du charme de l'endroit. Paradis du surf, lieu de détente, bulle insulaire en territoire canadien, l'île de Vancouver est un écrin dans lequel Tofino est l'une des nombreuses perles. Un arrêt avant Tofino. Pour se rendre à Tofino, on peut voler jusqu'à Vancouver, prendre un traversier jusqu'à Victoria ou Nanaimo et rouler quelques heures. On peut aussi atterrir directement à Victoria et rouler. Ou prendre deux vols, l'un vers Vancouver et l'autre vers Tofino. Si vous privilégiez cette dernière option, il peut s'avérer intéressant de dormir à proximité de l'aéroport international tout près de Richmond. Pour les budgets serrés, l'option du Accent Inn, avec un service de taxi gratuit vers l'aéroport, comblera vos besoins de base. Si vous désirez vous gâter, choisissez l'hôtel Versante, qui n'a rien de l'hôtel d'aéroport cliché. L'endroit est magnifique, particulièrement bien décoré et possède un restaurant, Bruno, qui vous renversera. Promis, juré! Si vous êtes de passage le week-end, faites un tour au Night Market, où vous trouverez une quantité orgiaque de nourriture jamais vue ailleurs. Misant sur d'indéniables influences asiatiques, les Chinois d'origine représentent au moins 60 % de la population de Richmond. Le marché est une activité en soi. On peut y passer une soirée entière à goûter à des trucs magnifiques ou étranges dans une ambiance de kermesse. Plaisir garanti. C'était Voyager à Tofino pour se mettre à l'abri du monde. Un texte de Samuel Larochelle, paru le 26 juin 2023 dans le magazine Fugue.